Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette deuxième édition du festival Effraction. Je reçois aujourd'hui pour ce grand entretien Florence Aubenas, qui est donc grand reporter au Monde, qui a publié en 2010 Le Quai de Ouistreham, qui était une enquête d'immersion sur, après la crise de 2008 sur les travailleuses précaires, et qui vient de publier aux éditions de L'Olivier, L'inconnu de la Poste, qui est une enquête formidable, très romanesque, sur un fait divers qui a eu lieu en 2008 dans un petit village de l'Ain qui s'appelle Montréal-Lacluse, dans lequel donc un meurtre non élucidé jusqu'à présent d'une postière qui s'appelle Catherine Burgot, qui a été retrouvée donc tuée de 28 coups de couteau. Et vous avez enquêté sur cette histoire. L'un des principaux suspects a été Gérald Thomassin, qui était un jeune espoir du cinéma français, qui a eu les Césars du jeune espoir masculin, c'est ça, en 91 pour Le Petit Criminel de Jacques Doyon. Et donc, vous avez vraiment mené une enquête de long terme. Vous avez quasiment vécu, enfin voilà, pendant 6 ans à Montréal-Lacluse pour écrire ce livre qui nous amène vraiment là à la frontière entre littérature et réel, qui est le thème du festival. Et donc là, l'intitulé de la rencontre, c'est Littérature tout terrain. Et peut-être pour commencer, je voulais vous poser la question, est-ce que vous pourriez dire que vous pratiquez une littérature de terrain?
Bon, c'est vaste. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si on peut dire ça. En tout cas, je pratique le reportage. C'est la première chose. C'est-à-dire que ce livre n'est pas un roman. La forme est un récit, mais ça n'est pas un roman. C'est un fait divers réel avec des gens réels. Et ce qui est écrit est réel. Donc ça c'est la première des choses. Alors, j'ai toujours un peu de mal à dire littérature. Je trouve que ça fait un peu emphatique et je me sens un peu mal à l'aise avec l'appellation. Et alors, par bonheur, les éditions de L'Olivier, où le livre est publié, ne fait pas de distinguo entre les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une collection, entre guillemets, reportage et une collection qui serait littérature ou Dieu sait comment on peut l'appeler. Et donc, c'est ce qui m'intéresse aussi dans cette maison d'édition, c'est de raconter, voilà, c'est ça. Il y a un récit. Après, on signale bien au lecteur si il s'agit de la réalité ou d'une œuvre romanesque. Mais au-delà, après tout, qu'importe. Alors qu'on l'appelle littérature, je vous dis encore une fois, moi, voilà, ça me gêne. D'une part, j'adore la littérature et je mets très haut ceux qui la font.
Mais c'est vrai qu'on sent, que ce soit dans vos reportages ou dans vos livres, un vrai travail d'écriture. Et là, dans ce livre, à la fois, c'est un livre qui fourmille d'informations, dans lequel on est complètement ancré dans le réel, quoi. On a l'impression que rien ne vous a échappé, tous les moindres détails de Montréal-Lacluse. Et pourtant, je sais que vous en aviez des pages et des pages et que vous avez réduit. Et en même temps, on est vraiment porté par un flot littéraire, quoi. Est-ce que quand vous avez commencé à travailler sur ce livre, c'était quand même un objectif de vous approcher le plus possible, sans trahir le réel, de la littérature?
En fait, non, parce que la première démarche du livre était de traiter un fait divers que j'avais déjà traité dans le journal Le Monde. Donc j'avais fait un article dessus. Et en fait, ce qui m'a accroché dans cette histoire-là, davantage que comme déclencheur, c'était de me dire, chaque fois qu'il y avait une solution qui apparaissait, puisque c'est une affaire judiciaire, donc un tel a été arrêté, ben finalement c'est pas lui, peut-être pas lui, il est relâché, un autre est arrêté, mais c'est pas lui non plus. Donc il y avait comme ça des mystères en gigogne. Et donc j'étais très curieuse de savoir ce qui s'était passé. Plein de choses me... Oui, je me disais, Gérald Thomassin, mais qui est ce type finalement, ce jeune espoir du cinéma dont vous parliez? Le père de la victime ne voulait pas me recevoir au départ en se disant, bon, qu'est-ce qu'elle vient chercher? Enfin, je peux imaginer que l'image d'une journaliste parisienne n'est pas forcément, on n'a pas forcément envie de prendre le déjeuner avec elle, donc ça se conçoit assez bien. Au départ, je me, ces, 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 ces épreuves, c'est. ces difficultés, en fait, m'ont motivée. Donc, je me disais, non, mais je vais y retourner. Alors, je reprenais un billet de train pour Montréal-Lacluse. Je reprenais un Airbnb. Je me disais, non, mais il faut que je trouve. Donc j'ai moi-même été un peu prise par cette affaire de cette manière-là. Donc, j'avais peu d'idées sur la manière dont elle s'incarnerait, finalement, dans l'écriture. Mais ce qui est sûr, c'est que, de toute manière... j'aime écrire et je pense que c'est quand on est journaliste, hein, y compris en quotidien, y compris dans un travail très rapide qui est celui du quotidien. Je pense que moi, en tout cas, je pense qu'il est très utile de faire attention à la manière dont on écrit, à la manière dont on raconte ce qu'on veut raconter à un lecteur et quelle méthode on choisit. C'est-à-dire, est-ce qu'on choisit un portrait, est-ce qu'on choisit une interview, est-ce qu'on choisit un grand récit et toutes ces choses-là ne sont pas du tout anodines et sont au contraire fondamentales. C'est-à-dire, je vais dire une grande banalité, mais le fond et la forme vont ensemble et je pense qu'il faut y faire très attention, qu'on n'y fait pas forcément toujours attention.
Et est-ce que ce qui vous a accroché aussi dans cette histoire, c'était non seulement effectivement les rebondissements incroyables et en chaîne que vous avez vécu jusqu'en 2019, qui donc s'est terminé avec la disparition de Gérald Thomassin qui se rendait à Lyon, où vous l'attendiez, vous aviez rendez-vous avec lui pour une dernière confrontation avec un nouveau suspect qui venait d'émerger, dont les empreintes ADN avaient été retrouvées dans le...
oui. Terminez votre phrase.
Ouais, c'est clair. Mais donc ça, c'était quand même pour le dire, parce que c'est assez incroyable dans cette histoire. Donc c'est vrai qu'il y a ça, mais est-ce que ce qui vous a aussi accroché à cette histoire, c'est pas la découverte d'un lieu, d'un cadre et d'une catégorie de la population qui n'est pas assez racontée peut-être, notamment celle-là en l'occurrence des marginaux, on va dire. Enfin, il y a à la fois la France rurale et puis un garçon qui a fait 21 films, mais qui en même temps garde toujours un pied dans la rue. Oui. Enfin, que ce soit dans le Quai de Ouistreham ou dans ce livre, on sent aussi que vous racontez quelque chose de la France qui peut-être est parfois tue.
Oui, alors c'est vrai que c'était le mélange des deux qui m'a intéressée, c'est-à-dire et ce mélange des deux fait le début de cette histoire en fait. C'est-à-dire comme vous le dites, c'est Gérald Thomassin est un jeune acteur, enfin il a 35 ans à l'époque où il s'installe à Montréal-Lacluse. Et donc il a été sacré jeune espoir du cinéma, il a fait 21 films, il a réellement une carrière d'acteur, hein, donc c'est pas du tout un type qui a fait un film de temps en temps, donc il est vraiment acteur. Mais entre ses films, il dépense l'argent tout de suite de ses cachets, il le distribue, presque ça lui brûle les doigts, et après il se met au RSA, donc au minimum sociaux. Et puis, il vit un peu dans la rue, un peu comme ci, un peu comme ça. Il va dans les services sociaux. Enfin, il a une vie assez marginale et assez affichée. C'est-à-dire qu'il se promène avec sa canette, il met la musique fort. Donc, quand il arrive à Montréal-Lacluse, un village de 3... Enfin, un village, 10 villages, en fait, c'était une bourgade de 3500 habitants. Il se balade, canette dans la main, avec deux autres copains qu'il a trouvés sur place et qui ont eux aussi la canette dans la main. Donc ça fait un peu les oiseaux de village, un peu les gars qui sont là. Et évidemment, tout le monde les remarque parce qu'il y en a trois dans le village. Il n'y en a pas forcément tellement plus, en tout cas de façon aussi affichée. Et le choc de ces jeunes gens-là dans ce village... Et total, puisque le village, lui, est un bourg ouvrier aujourd'hui, parce que c'est la Plastic Valley, donc il y a des usines de plastique un peu partout. Mais c'est un ancien bourg rural. La génération précédente travaillait les champs. Donc ça a basculé en une génération, en 30 ans, littéralement de la charrue à l'usine. Et donc, évidemment, ça tranche. Évidemment, ces types-là sur la place du village... lui en tout cas est désigné comme l'étranger tout de suite, c'est dit comme ça, il n'est pas d'ici, comment il se comporte, voilà. Il vit dans une maison où sont logés des gens avec peu de moyens, hein, qui est une maison ancienne mais découpée en appartements, et c'est surnommé par les habitants avec un sourire, hein, c'est gentiment la maison des catastrophes, donc ça vous donne le niveau de la manière dont on le voit. Et quand ce meurtre a lieu, le choc de ces deux cultures, celle de villageoise et celle urbaine, canette, cinéma, etc., évidemment fait qu'il est désigné. Et c'est justement le croisement de ces, j'ose pas dire deux France, mais en tout cas de ces deux milieux, de ces deux mondes, qui fait le premier choc de l'histoire. Et donc ça m'intéressait, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Je suis persuadée que si ce meurtre dans un bureau de poste avait eu lieu, je dis n'importe quoi, à Aubervilliers, je ne suis pas persuadée qu'on serait tombé sur le dos de Thomassin. Mais parce que c'est une culture urbaine dont on a davantage l'habitude à Aubervilliers qu'à Montréal-Lacluse. Donc c'est l'intérêt pour moi était le frottement de ces deux milieux. Et donc on se dit, c'est qui ? C'est forcément quelqu'un du village. Hein, parce que ça se passe dans ces petites rues, un village ancien, des toutes petites rues, les voitures se croisent à peine. Donc c'est vraiment... ouais, il y a un entrelac de ruelles. Et lui habite absolument en face de cette poste. Et cette poste est toute petite. Elle fait une trentaine de mètres carrés. Il y a une quinzaine de clients qui viennent par jour. La postière la tient seule. Donc il y a une postière, une femme, 41 ans, deux enfants, enceinte, qui la tient, qui est l'enfant du pays, une jolie femme, qui va porter l'argent de la semaine aux vieilles personnes. Enfin, c'est vraiment, elle est très intégrée. Et pour rentrer dans cette poste, il y a une seule porte. Et donc, rien ne la signale sur le devant. Enfin, il y a juste un petit calicot, la poste, etc. Pour vous dire, même le directeur de la poste ne savait pas qu'elle existait avant le meurtre. Parce qu'elle n'est pas répertoriée, parce qu'elle fait peu d'opérations, voilà. Pour toutes ces raisons-là. Et cette femme, Catherine Burgot, qui est assassinée, les habitants la désignent comme celle... Elle est aussi bien vue qu'on peut l'être. Donc, qui peut assassiner Catherine Burgot dans une poste que personne ne connaît, si ce n'est l'un d'entre nous? Et alors tout le monde se regarde les premiers jours en disant qui c'est, qui, lequel d'entre nous. Donc toutes les personnes du village disent c'est forcément quelqu'un à qui on dit bonjour le matin. Et donc on se regarde et évidemment à partir de ce moment-là c'est ça doit être un toxicomane. Donc Thomasin, entre autres qualités, boit sa canette, un peu toxicomane, il tourne au Subutex. Enfin il est dans ce milieu-là. On dit, si c'est l'un d'entre nous, ça doit être lui. Il habite en face, il a besoin d'argent puisqu'il il est au Subutex et au RSA. Donc ça se focalise sur lui parce qu'il y a le choc de ces deux mondes, en fait. Et c'est ça qui m'intéressait, c'était creuser les deux en parallèle.
Et est-ce que vous aviez des modèles littéraires en tête au moment d'écrire ce livre ? Vous disiez tout à l'heure qu'effectivement, le terme de littérature est un terme qui vous impressionne, ou en tout cas, vous avez en tête des auteurs que vous estimez tellement... voilà.
Alors, j'en ai plein, j'en ai presque trop, si j'ose dire. Donc, j'aime beaucoup la littérature 19e française. Donc, j'aime tous les... J'ose pas dire tous les Balzac, mais j'aime Balzac, tout Balzac. J'aime Zola, ça n'a rien à voir, mais c'est... Voilà, j'aime cette littérature longue qui raconte le pays aussi, qui raconte des milieux différents. Et surtout, le terme, c'est qui raconte. Et j'aime la littérature 19e parce qu'elle raconte, parce qu'elle a ce côté conteuse, histoire, on s'y accroche. Enfin, je veux dire, quand on rentre dans les illusions perdues, ben, je tourne les pages rapidement. Et évidemment, donc j'ai grandi en Belgique, donc j'ai une passion pour Simenon. D'une part parce que j'aime la pluie et qu'il n'y a pas meilleur. On dit que les Esquimaux ont je ne sais combien, 300 mots pour parler de la neige. Je pense que Simenon doit en avoir encore plus pour parler de la pluie. Toutes les pluies ont leur description, etc. Et ouais, j'adore Simenon pour ça. J'aime aussi sa brièveté, parce que j'aime la longueur chez les uns et la brièveté chez lui. Donc oui, j'aime les conteurs, en fait. J'aime le Tchekhov des nouvelles, j'aime ce type de littérature qui raconte.
D'accord. Et la non-fiction, vous en lisez beaucoup ?
La non-fiction, alors, j'en lis beaucoup. Je trouve qu'elle se popularise et qu'elle devient plus intéressante maintenant. Alors, il y avait les très grands auteurs, j'ose pas dire toujours les mêmes, mais un peu toujours les mêmes, dont on a longtemps parlé, qui étaient, je vous épargne Truman Capote, qui est évidemment admirable. Les premiers que j'ai lus, c'était Truman Capote, Tom Wolfe, Kapuscinski, qui a fait des bouquins remarquables. C'est ce journaliste polonais. J'adore Charine, Chatwin, pardon. Charine aussi, mais c'est un autre genre. Chatwin, donc ce genre-là qui était, j'ose pas dire, c'était presque des classiques au-delà de la fiction ou non-fiction. Et en France ou en Europe, il y a eu toute cette vague d'écrivains voyageurs, dont Bouvier était le porte-étendard en premier, qu'on peut presque rangé dans cette catégorie. Et ça n'est que plus tard qu'il y a eu la non-fiction, comme on la raconte, comme on l'explique aujourd'hui. En tout cas, elle est arrivée en France plus tard. Moi, je l'ai vue bien plus tard. Et que je trouve très intéressante, où il y a Adriane Leblanc, Krakauer, il y a toute cette vague américaine. Et alors, dans les pays européens, où cette littérature-là a moins de débouchés, c'est-à-dire qu'on en vit moins facilement, pour dire les choses de façon très économique. Et donc, j'ose pas dire que chaque pays a un peu les siens, mais c'est un peu le cas, quoi. On a Gomorra pour l'Italie, on en a des formidables, cet auteur formidable, Chris Van Stop pour les Pays-Bas. Donc, c'est extraordinaire. Alors, celle que j'aime en ce moment, donc on a les toccates du moment, donc ma toccate du moment, c'est Maggie Nelson qui a fait donc une partie rouge que je trouve remarquable et qui est surtout poète.
Ok. Est-ce que vous diriez qu'il y a un style de non-fiction un peu français par rapport aux États-Unis, par exemple ? Est-ce que vous reconnaissez plus dans un type de non-fiction que dans un autre ?
Alors, je pense que les pays ont leur genre, un peu. Donc, en France, c'est peut-être plus littéraire, si j'ose dire. Je pense par exemple à Jean Hatzfeld qui a fait tout un travail passionnant sur le Rwanda en particulier, mais aussi sur l'ère de la guerre, qui est un bouquin sur la guerre en ex-Yougoslavie, et qui est un travail vraiment où il y a une étude très, très sur la forme, enfin, la manière dont les gens parlent, qui est vraiment intéressant, c'est vraiment très intéressant. Donc ça, c'est très français, je trouve. Donc cette manière, voilà. Et la non-fiction française... adore mettre, si j'ose dire, le jeu, utiliser le jeu. Donc, je pense à Génada qui a fait la Serpe et qui l'a écrit la première personne, à Carrère, bien sûr, qui a fait l'adversaire aussi et qui se mêle à ses livres. Donc,
alors que vous essayez le plus possible de disparaître dans l'inconnu de l'as-post, enfin, on vous aperçoit.
Dans ce bouquin-là, oui. Voilà. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut Carrère, par exemple, ou Génada, ont des styles très ancrés et qui, à chaque livre, reviennent pour mon plus grand plaisir. Hein, en revanche, moi, je préfère changer à chaque livre, prendre à chaque livre un peu comme on dirait de quelqu'un qui fait de la musique. C'est-à-dire que quand le piano va mieux, on prend le piano, quand le violon... et donc, je pense que je préfère ça. Je préfère ne pas avoir, entre guillemets, un système.
Vous parliez tout à l'heure dans L'Inconnu de la Poste du frottement entre plusieurs mondes qui s'entrecroisent et qui s'entrechoquent dans cette histoire. Mais dans le livre lui-même, sur la forme, il y a aussi un frottement, vraiment, j'y reviens, entre littérature, journalisme, reportage et fiction. Enfin, il y a vraiment des personnages dont les noms même sont assez évocateurs, que ce soit Tintin, Rambouille, La Grotte, qui est le lieu où ils vivent, qui a cette appellation comme ça. Même dans le cas de Ouistreham, le tracteur, qui est la voiture que vous utilisez est comme un personnage dans ce livre. Est-ce que vous citiez Balzac, Zola, des romans du 19e siècle, ce que vous cherchez quand même quand vous écrivez, c'est pas ce frottement?
Si, bien sûr, bien sûr. Petit à petit, au début, on a du mal, enfin en tout cas moi j'ai du mal à voir moi-même ce qu'on cherche comme type de situation. En fait, au bout d'un moment, on le voit un peu. Il y a effectivement ça, le frottement des choses, comment elles s'organisent entre elles, comment elles coïncident ou ne coïncident pas. Donc ça, c'est sûr. Et comment une autre chose qui m'intéresse, ça c'est sans doute issu de mon métier de journaliste, c'est comment des gens très différents, tout à coup se retrouvent plongés dans un défi qu'ils n'ont absolument pas calculé. Donc là, ça peut être, quand on va en Syrie, ça peut être tout à coup une guerre qui éclate, ça peut être en Haïti, la terre qui tremble, et à Montréal-Lacluse, ça peut être tout à coup ce meurtre tout à fait inattendu sur une personne que personne ne lui veut du mal, qui a pu tuer Catherine Burgot. On ne voit même pas le mobile qu'il peut y avoir. Et donc, comment ce village, comment la famille de cette victime, comment une personne accusée et qui nie vont chacun affronter cette même catastrophe avec comme il peut, en fait. Et ça, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse. C'est-à-dire, c'est des gens qui, ordinaires, entre guillemets, qui sont tout à coup balancés dans quelque chose qui les dépasse et auquel ils doivent faire face. Et chacun, et alors là, c'était pour moi, j'ai beaucoup aimé faire ce livre, et ça a été un apprentissage douloureux, si j'ose dire. C'est-à-dire, j'ai vraiment ramé pour l'écrire, je reconnais que. Parce que je voulais que chacun puisse raconter comment il l'a fait, comment puisse avoir son rôle plein. et de façon très différente. C'est-à-dire le père de la victime a une façon de le faire. C'est le notable du village, un des notables du village. Donc il ne va pas l'affronter évidemment de la même manière que Thomasin et sa canette. Donc c'était ces différences-là qui m'intéressaient et qu'il fallait entrecroiser sans donner le tournis au lecteur en fait.
Oui, c'est vrai qu'a priori on pourrait se dire que Gérald Thomasin va être vraiment un personnage principal et finalement vous avez réussi à en faire un livre assez polyphonique quoi.
Oui, c'est-à-dire c'est très tentant parce que évidemment c'est un personnage et alors dans sa vie comme dans un livre j'imagine qui bouffe l'espace littéralement. C'est-à-dire que quand il est là, il prend toute la place et d'ailleurs ses copains le blaguent là-dessus. Il dit faut toujours qu'il soit au milieu de la photo. Donc ce meurtre a lieu. Un meurtre terrible, énorme, etc. Évidemment, des journalistes arrivent et le jour même sont là, dans le village, filmant les gens, demandant si on a vu quelque chose, etc. Et Thomasin, qui regarde cette scène, dit à ses copains, « Ah, ça y est, ils viennent sans doute m'interviewer. » Et son copain dit, « C'est pas possible, il y a quelqu'un qui est mort, une femme est morte, et toi, tu te mets encore au milieu. » Et Thomasin a ce côté-là, il bouffe l'espace, il apparaît, il est là tout le temps, il fait du bruit, c'est un acteur, en fait. Donc, je pense que ça tient à son métier, en tout cas, à la manière dont il a pu le réussir. C'est vrai que je ne voulais pas. Enfin, il prend une place importante dans le livre puisqu'évidemment il est le premier suspect et cette suspicion va durer presque 7 ans. Hein, donc, il va faire 3 ans de prison. Mais je ne voulais pas non plus qu'il bouffe le livre.
Et depuis quelques années, on a l'impression qu'il y a un regain d'intérêt vraiment assez frappant, notamment au niveau des livres qui sortent pour le fait divers, en fait. C'est-à-dire que ce qui, auparavant, pouvait apparaître comme un sujet vulgaire, qui n'avait pas, a priori, beaucoup d'intérêt, maintenant est vraiment rehaussé et étudié avec attention. Et comment vous interprétez-vous ce phénomène, quoi ? On voit que ce soit par des écrivains, des historiens, des sociologues, des livres sortent sur des sujets qui sont un peu pris comme des métonymies de la société, quoi. Est-ce que vous pensez que c'est effectivement une tendance qui caractérise un petit peu le journalisme aujourd'hui, enfin...
Je pense que le crime, c'est pour aller vite, le fait divers, au cinéma, il n'y a jamais eu de problème. Donc personne ne va avoir honte de vous dire « je suis allé voir un film d'Hitchcock ». Donc ça n'a pas de problème. Et les films noirs, au contraire, ont leur vrai... les tontons flingueurs, enfin tout ça a une vraie reconnaissance. Dans ce qu'on appellerait en fiction un polar, a longtemps lui aussi été considéré comme un sous-genre. Et ça s'est petit à petit sorti de là, avec des auteurs qui ont à la fois français ou étrangers. Hein, je pense à quelqu'un comme Elroy, qui est devenu... Personne ne dirait c'est un sous-auteur. Enfin, c'est vraiment un grand écrivain américain, tout simplement, quel que soit ce qui est écrit. Et donc, ça a commencé à sortir d'une sous-catégorie, en tout cas dans ce qui est imprimé, par les romans, par la fiction. Et petit à petit, en revanche, dans ce qui était journalisme, dire « j'écris sur un fait divers », ça a longtemps été gênant. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé à être journaliste, en tout cas à écrire, à être reporter, dans le service d'information générale à Libération. Et je me souviens de la tête catastrophée de mon père qui m'a dit « Mais tu vas quand même pas passer toute ta carrière à faire les chiens écrasés. » Et donc, lui, il m'avait offert un Mont-Blanc. Il s'était dit « Ça y est, elle va être critique littéraire. » Et boum, voilà qu'elle nous fait les meurtres. Voilà. Et donc, c'était les lire, les faire. Il y avait un côté gênant. Et c'est marrant, d'ailleurs, parce que dans l'adversaire de Carrère, hein, dont on parlait tout à l'heure, au détour d'une phrase, il dit, par exemple, « J'avais peur que mes enfants aient honte que je fasse un livre sur un sujet comme celui-là. » Et on voit qu'on est à la charnière, c'est-à-dire qu'il fait le livre, mais à la fois, il a peur que ses enfants en aient honte. Et donc, c'est resté longtemps, hein, même, d'écrire là-dessus, de faire ça. Et je pense que dans la foulée des romans, des polars, un certain nombre de journaux qui n'étaient pas catégories, faits divers, etc., ont commencé à les traiter, et y compris dans la presse, ça prend petit à petit une autre dimension. C'est-à-dire qu'on est moins gêné de les lire. Au Monde où je travaille, pendant longtemps, on refusait de traiter les faits divers, par exemple. On traitait les procès avec des grandes plumes, voilà. Mais le fait divers restait embarrassant, un peu, voilà. Et je suis comme vous, je pense que ça, c'est vraiment en train de changer. Je pense qu'il y a un grand enjeu autour les séries, les plateformes style Netflix, etc., ont aussi joué un rôle au sens où des gens qui n'auraient pas forcément raconté à tout le monde qu'ils allaient acheter Détective ou qu'ils lisaient ça dans Paris Match ou voilà, se sont dit entre eux, tiens, t'as vu telle série ? Et c'est petit à petit, les gens, j'ose pas dire, ont osé le dire, mais comme Carrère et ses enfants, papa fait un livre sur un fait divers. Ouais. Donc maintenant, on peut dire, papa regarde Netflix, la série sur Grégory ou peu importe quoi. Et je crois que c'est que toutes ces choses ont fait que voilà qu'aujourd'hui, on en est tout à fait à un autre point.
C'est vrai qu'à un moment donné, on pouvait se dire que dans un certain milieu, se dire sensible au suspense ou lire des polars, lire des livres à suspense qu'on dévore un petit peu comme ça et qu'on appelle même parfois des romans de gare, était un peu honteux. Est-ce que parce que on jugeait que c'était synonyme de peu de style, quoi, enfin que l'écriture n'était pas travaillée et tout. Est-ce que vous êtes lectrice, enfin vous vous assumez aussi d'être sensible au suspense et en même temps d'apprécier le style, enfin voilà.
Ben, on parlait de Simenon tout à l'heure. C'est vrai que dire je lis Simenon, ça faisait sourire il y a 20 ans. C'est-à-dire bon alors bon regarde bon ça va t'es belge, enfin donc ça passait comme une voilà un peu une belge d'opérette moi. Qui aime bien Simenon, allez, ça fait partie des choses, et t'aimes les frites aussi. Enfin, il y avait ce côté comme ça, folklorique presque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Simenon, publié en Pléiade, je pense que ça ne serait venu à l'idée de personne il y a encore 15-20 ans. Quoi. Je pense comme vous que. Que les gens s'y mettent maintenant. Alors moi, ça m'a jamais gêné hein, de dire je lis des polars. J'en ai toujours lu, j'adore ça. Voilà. Alors il y avait, mais c'était pas, oui, c'était pas si évident.
Et bon, là, ça fait vraiment que quelques jours que L'Inconnu de la Poste est sorti. Mais est-ce que vous savez déjà si des gens de Montréal-Lacluse l'ont lu ? Et est-ce que vous avez déjà des retours quoi, sur l'impression que l'effet même que le roman, que le livre pardon, fait sur les gens qui sont concernés ?
Alors, j'ai quelques retours, pas tant que ça. Et je pense que les gens ne savent pas trop... Comment le prendre ? Alors certains, oui. En tout cas, ceux qui me font, qui font une réaction, elle est positive hein, dans les premiers temps, forcément. Par exemple, nous parlions de Catherine Burgot qui a été assassinée et Gérald Thomassin qui a été longtemps suspecté d'être l'assassin. J'ai dit, par exemple, dans une émission de télé, que les deux, il y avait des résonances entre leurs deux vies. Notamment autour du suicide, d'une enfance pas forcément facile. Et alors ça, par exemple, ça a été très mal vécu à Montréal. Ça a été comment on peut comparer l'un et l'autre. Donc voilà, je pense que chaque chose, dès lors qu'on parle du réel et qu'on écrit dessus, on y va sur la pointe des pieds. Et ça c'est une des choses très difficiles et j'y suis souvent confrontée, y compris quand on fait des articles dans les journaux. C'est-à-dire qu'un adjectif peut meurtrir quelqu'un à un point qu'on n'imagine pas. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'essaie d'y aller sur la pointe des pieds. Vous voyez, je ne réussis pas toujours. Donc, pour lequel Ouistreham, donc qui était pareil, hein, c'était une enquête que j'avais faite dans le... nettoyer un ferry avec des femmes de ménage, etc. C'est vrai qu'au début, les femmes dont je parlais ne savaient pas s'il fallait de quelle manière appréhender cette histoire-là. Est-ce que c'était bien, pas bien ? On en parlait. C'est vrai qu'à chaque fois, je me dis qu'il faut faire très attention. J'y vais de plus en plus, avec de plus en plus de précautions. Mais à chaque fois, c'est sûr, je sais que je vais me prendre une porte, je ne sais jamais laquelle, mais c'est sûr, et je le comprends très bien. Je veux dire. C'est normal aussi, on peut essayer de faire tout ce qu'on veut, c'est compliqué.
Et dans votre pratique de l'écriture, quand on écrit sur le réel comme vous, est-ce qu'on écrit en temps réel ou bien est-ce que vous êtes plutôt en train d'emmagasiner beaucoup d'informations pendant tout un temps pour passer à une phase d'écriture isolée qui arrive plus tard ?
Alors moi, je suis compulsive du carnet de notes. Donc j'ai des carnets de notes à n'en plus finir, je les numérote. Enfin bon, bref, j'en ai des cartons entiers chez moi. C'est terrible. Que je retranscris après sur ordinateur. Vous voulez vraiment rentrer là, on est dans les sous-sols de Beaubourg, là, vous allez rentrer dans les sous-sols de... Et donc ça, c'est je fais ça de façon très précise. En revanche, je n'écris pas, je ne rédige pas en temps réel. Mais en revanche, des idées me viennent pendant que je prends mes notes. Et donc, dans mes carnets, il y a de tout. Et alors, je suis très avide de voir comment les autres font. Alors là, je vais vous citer un autre. Ne vous inquiétez pas, je ne me compare pas. Je vais vous citer Zola, j'adore Zola. Et c'est vrai que Terre Humaine, donc la collection Terre Humaine, a publié les carnets d'enquête de Zola. Quand j'ai vu ça, je ne savais pas que c'était sorti, donc je me suis ruée dessus, bien sûr. Je me dis comment Zola prenait ses notes. Et donc, j'ai commencé à feuilleter. C'est un bouquin énorme, donc on a tous les Rougon-Macquart. Et alors, lui prend des notes incroyablement précises. Là, j'étais gênée. Je me dis, mais moi, je fais ça à la sauvage. Donc, il y a la couleur des tentures, qu'est-ce qu'on a mangé à midi, enfin, dans tous les milieux qu'il traverse. Et très peu de dialogue. Mmh. Et moi, c'est l'inverse. Beaucoup de dialogue, peu de couleurs de papier peint. Donc, maintenant, je vais faire un effort. Pour noter les couleurs.
Et dans ces romanciers du 19e siècle, vous ne citez pas Jules Vallès, mais est-ce que lui, qui était à la fois journaliste, écrivain, qui a témoigné aussi de son temps et notamment des humbles, quoi, est-ce que c'est un écrivain qui vous parle ?
Oui, j'aime bien Vallès, mais j'aime mieux les sagas sociales. Enfin, c'est vrai que c'est social au sens où. On prend là un jeune garçon qui traverse tout. Je l'aime bien, mais c'est pas celui qui me vient en premier, pour dire les choses.
Okay. Et dans ces écrivains que vous citez, c'est souvent aussi des écrivains qui ont fortement témoigné de leur temps, c'est-à-dire qu'on peut lire aussi leurs livres et leurs romans comme des témoignages de leur époque, de l'ambiance, des lieux, et aussi des crises qui ont frappé la société française, en l'occurrence. Est-ce que vous ne considérez pas que quand vous écrivez un livre comme Le Quai de Ouistreham, par exemple, c'est aussi un acte d'historienne du temps présent, on va dire, parce que quand on le relit a posteriori, là, on a un témoignage de ce qu'était la crise de 2008 et de ses effets, quoi.
Oui, alors c'est vrai qu'une chose qui me passionne, enfin que j'adore faire, c'est le reportage social au sens très large du terme. Donc c'est vrai que ce soit dans Le Monde, où je travaille, le journal Le Monde, c'est sûr que quand il y a la crise des Gilets jaunes, j'ai qu'une envie, c'est partir sur un rond-point. C'est sûr, j'aime ça, ça m'intéresse, je trouve que c'est là où la vie émerge, bouillonne, on ne sait pas ce qui est en train de se passer, mais ça se passe. Donc pour moi, c'est des moments précieux, c'est des moments intéressants, c'est des moments, où, aujourd'hui aussi, d'une certaine manière, c'est des moments où on se demande, le sol bouge sous nos pas, où est la terre ferme, on n'en sait rien. Et ça, comme journaliste, comme quelqu'un qui aime travailler sur la matière vivante, c'est sûr que c'est passionnant. Donc j'aime ça. Par exemple, une chose qui m'a toujours fascinée entre Zola et Balzac, hein, qui se succèdent dans le temps, hein, y a un bouquin de Balzac qui s'appelle La Bourse. Et ce bouquin qui s'appelle La Bourse ne traite pas de la Bourse, place de la Bourse à Paris, la Bourse des Valeurs, c'est un porte-monnaie. Et le bouquin de Zola qui s'appelle L'Argent traite de la Bourse. Et donc, c'est vrai que ça, on le voit, on voit le changement d'époque à travers ces livres-là. Et c'est extraordinairement précieux. Et en plus, c'est toujours passionnant de voir comment ils l'attrapent, les blagues qu'on fait dans Le Père Goriot, les blagues qu'on fait à table sur la couleur de l'époque. Pour moi, c'est un régal. Enfin, je veux dire, ça fait le sel de ces livres-là.
Quand on vous entend et quand on vous lit, on sent que l'un de vos moteurs, c'est vraiment la rencontre, quoi, les rencontres avec les gens que vous allez voir. Mais je voulais savoir si, dans votre vocation de journaliste, quelle était la part de motivation par la rencontre, par le récit de ce qui nous entoure, et de littérature, d'écriture, comment vous avez eu comment vous avez accroché avec le journalisme, quoi ? Est-ce que c'est la lecture d'articles, la lecture d'écrivains ou
Au départ, je vous mentirais en vous disant que j'avais une vocation de journaliste. Ce n'était pas le cas. Je fais des études de lettres et je cherchais un débouché très concret. Je me disais, les études de lettres, au bout d'un moment, on vous demande alors tu vas être prof. Enfin bon. Donc, je voulais un débouché, comment gagner ma vie. Donc j'ai fait du journalisme parce que j'ai réussi le concours du CFJ et je suis rentrée dans la branche technique. Donc c'était pas forcément le mythe du reporter ou de l'écriture ou d'une chose comme ça. Donc, c'était presque plus lire les articles des autres. Hein. C'est ça, être la branche technique du journalisme. Et en fait, c'est vrai que quand je suis rentrée à Libération, à un moment, ils ont cherché des jeunes gens, comme moi à l'époque, en disant, voilà, est-ce que vous voulez commencer à faire du reportage comme une évolution professionnelle. Et c'est vrai que la première chose qu'on m'a demandé, c'est de recevoir les gens qui étaient là dans le hall. Hein, à l'époque, des gens venaient dire voilà ce qui m'est arrivé. On recevait des personnes dans les journaux. Et les gens m'ont raconté leur histoire. Et c'est sûr que c'est pas un billet d'avion pour un ailleurs en guerre qui m'a motivée. C'est ces gens qui s'asseyaient en face de moi et tout à coup déballent tout. Vous mettez leur trip sur la table, des gens que vous n'avez jamais vus, qui ne vous ont jamais vus et qui vous parlent avec une confiance et une intimité bouleversante d'une certaine façon. Et c'est vrai que c'est ça où je me suis dit, voilà, une fois que j'ai fait cette interview et le papier, je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Et c'est vrai qu'après, où qu'on aille, c'est ça qui me motive, en tout cas. Quand je vous dis, je note plus de dialogues que de couleurs de papier, c'est sûr que c'est parce que la rencontre, pour moi, fait beaucoup. Dans un reportage, c'est 80% d'un reportage que je fais, c'est ça.
Et vous le disiez au début de l'entretien, quand on arrive à Montréal-Lacluse en tant que journaliste parisien, on peut être confronté à une défiance de la part des gens aujourd'hui. Est-ce que persister à le faire, à y aller et à être le plus fidèle possible à ce qu'ils vous disent, à leurs histoires, c'est aussi une part de votre métier, de votre combat aujourd'hui ?
C'est vrai que je suis journaliste depuis longtemps, depuis plus de 30 ans. Et donc, j'ai vu se dégrader l'image du journaliste d'abord à l'étranger, hein, puisque au départ, c'était sur des terrains de conflit, etc. Où au début, vous disiez, je suis journaliste, vous aviez un brassard, on vous disait bravo, vive la liberté, etc. Et petit à petit, on dit, bon, ben, très bien, on va vous tirer dessus parce que les journalistes, on n'en veut pas ici. Donc, c'est mettre un brassard presse ou comme ça à l'étranger, un gilet pare-balles avec écrit presse, c'était vous désigner comme une cible, en fait, et non plus comme une protection. Et petit à petit, en France, c'est devenu ça aussi. C'est-à-dire que pour la première fois, lors des manifestations Gilets jaunes, par exemple, j'ai vu une chose que je n'aurais jamais imaginé possible, et encore quelques années en France, qui étaient des journalistes avec des gardes du corps. Donc il y a vraiment une dégradation de l'image du journaliste, dégradation dans laquelle nous sommes pour partie coupables comme journalistes, c'est-à-dire que on n'a pas été à la hauteur pour dire les choses comme ça. Et c'est vrai que quand vous sonnez à une porte en France ou que vous allez dans un endroit et vous dites « Bonjour, je suis journaliste », déjà, c'est pas terrible. Quand vous dites « Je viens de Paris », vous aggravez votre cas. Dieu merci, j'ai pas de caméra. Donc, mais c'est limite. Et c'est vrai qu'il y a vraiment... C'est vraiment un problème aujourd'hui. Et il y a une telle défiance par rapport à la presse. Donc, après, pour contourner ça, expliquer ce qu'on fait... rendre confiance à la manière dont on peut travailler, c'est extrêmement compliqué. C'est très compliqué aujourd'hui. Alors je lisais aujourd'hui l'interview d'un journaliste américain. Et alors aux États-Unis, pendant longtemps, ils étaient à l'abri de ça, en fait. C'est-à-dire que il y avait cette espèce de mythe que tout Américain est un communicateur en puissance. Hein, je parle de l'homme de la rue. Et qu'une caméra arrive, il sait comment faire, comment parler, etc. Et ce journaliste américain disait qu'aujourd'hui, eux aussi rencontraient ces mêmes problèmes. Donc je pense que c'est quelque chose de général aujourd'hui. Et c'est vraiment très, très problématique. Donc... essayer de rendre confiance et de faire des journaux où les gens ont l'impression qu'on leur donne leur place est vraiment un objectif à faire aujourd'hui.
C'est important, oui, effectivement, je pense, enfin, en tout cas, avec votre livre, vous rendez hommage aussi à leur vie, quoi, enfin, quelque part. Donc, c'est sans doute une manière de guérir cette blessure.
Oui, et à la fois, je vous dis, on fait ce qu'on veut, regardez, les premières, certaines réactions vont être compliquées, etc. Donc, c'est vrai que, par exemple, j'ai tendance à faire quelque chose aujourd'hui que je ne faisais pas du tout. Il y a 2-3 ans, donc de façon très récente, c'est lire à certaines personnes ce que j'écris sur eux. Alors là, je ne vous parle pas de personnes politiques ou de personnes pour lesquelles la communication est un métier ou fait partie de leur métier. Mais Monsieur Burgot, par exemple, le père de Catherine Burgot, qui est la victime de ce meurtre à Montréal-Lacluse, je lui ai lu ce que j'écrivais sur lui. Je ne voulais pas qu'il, d'un coup, il achète un livre et que ça lui saute au visage. Donc je voulais qu'il s'y retrouve. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans une situation très particulière. Et donc ça, je le fais de plus en plus, alors que je ne l'aurais pas fait il y a 3 ans. Et j'aurais même poussé ici même des cris en disant « Non, mais il ne faut pas lire, etc. » Parce que je pense qu'il faut, de notre côté, tendre la main aussi. Donc retrouver ce chemin-là.
Et avec ce livre, vous atteignez, vous approchez de la littérature par le réel, c'est vraiment la démarche. Il y a aussi des romans qui sont sortis, tout un courant récemment en France, d'écrivains qui approchent le réel par la littérature et qui témoignent aussi d'une France rurale. Donc je pense à Nicolas Mathieu, par exemple, avec Leurs enfants après eux. Est-ce que vous pensez qu'il y a comme une communauté entre ce qu'ils font et ce que vous faites ?
Oui, c'est vrai. Et j'ai beaucoup aimé ce boulot de Nicolas Mathieu. Enfin, ce livre, j'ai trouvé en plus très bien que le Goncourt le reconnaisse, et que, parce que c'est des bouquins. C'est pas des chars d'assaut, quoi. C'est des bouquins fragiles, pas faciles à écrire, j'imagine, pour lui. Et donc c'est vrai que les liens entre réel, fiction, il y a tout ce courant d'autofiction, il y a tout ça s'entremêle bien évidemment. Et c'est une période intéressante pour ça, c'est-à-dire que et qui rend bien compte, je crois, de la réalité dans laquelle chacun de nous est plongé, c'est-à-dire de se demander toujours un petit peu dans quelle dimension on est, dans quelle représentation on est, est-ce que c'est bien vrai, est-ce que c'est bien. Et je trouve ça très intéressant que la littérature au sens large, que les livres aient pu s'en emparer et le faire chez beaucoup de gens avec beaucoup de talent. On parlait de Maggie Nelson, elle, c'est incroyablement bien fait. C'est des bouquins très intello et à la fois très ressentis. C'est des numéros, c'est très périlleux écrire. Je ne dis pas que c'est facile d'écrire la comédie humaine, hein, loin de là. Mais voilà, on est dans la fiction, même si ça s'inscrit dans un univers très réel, une évolution, etc. Mais là, on est sur des choses beaucoup plus fragiles, en fait. Et je trouve ça très intéressant, effectivement.
Et vous, est-ce que vous pensez que vous pourriez un jour vous décrocher complètement du réel et faire une œuvre de fiction ?
J'y tiens pas. Un de mes grands plaisirs, moi, j'aime la phase reportage. C'est-à-dire, j'adore écrire, même si là, je vous dis, j'en ai bavé. Mais j'aime bien ça. Ça m'a plu d'essayer de construire autrement. Enfin, j'aime ça. Voilà. Mais à la fois, pour moi, les livres, en tout cas dans ma pratique à moi, marchent sur deux pieds. Le pied reportage, qui est j'y vais, je passe du temps là-bas, je rencontre les gens. Toute cette phase enquête, je l'adore, au reportage, aller y vivre, le côté aventure, se lancer dans quelque chose dont on ne connaît pas la fin, cette histoire-là, par exemple. Donc tout ça me plaît. Et je pense que j'aurais vraiment du mal à y renoncer. Ce serait vraiment... Ouais, j'aime vraiment ça.
Okay. Et puisqu'on parlait de littérature de terrain, quels sont vos terrains du moment et sur quel terrain vous aspirez à aller bientôt ?
Alors les terrains du moment, ils sont malheureusement pandémiques. Donc on est tous un peu confrontés à les endroits où on peut aller finalement. C'est devenu compliqué de bouger, donc on travaille beaucoup en France en ce moment. C'est un peu la limite, en tout cas géographique. Alors moi, j'adore ça, travailler en France, donc ça me pose pas plus de problèmes que ça. C'est sûr que le monde autour de nous est devenu obscur, en fait. Hein. Il y a tout un tas de pays dont on a presque plus de nouvelles. Et alors là, c'est vrai que aller dans certains de ces pays, moi, j'aimerais y aller. L'Afrique, par exemple, compliqué d'y aller. Entre les groupes armés, les virus, enfin c'est compliqué.
Ok, bah merci beaucoup.